Gaston Bachelard, Radio. Aujourd'hui, la poésie et les éléments. L'eau.
Quel est l'homme poétique qui ne répondrait pas à l'appel des sources et des fontaines, qui ne garderait pas les souvenirs émus de l'étang et de la rivière?
Je suis né dans un pays de ruisseaux et de rivières, dans un coin de la Champagne vallonnée, dans le Valage, ainsi nommé à cause du grand nombre de ses vallons. La plus belle des demeures serait pour moi au creux d'un vallon, au bord d'une eau vive, dans l'ombre courte des saules et des osières, et quand octobre viendrait avec ses brumes sur la rivière. Mon plaisir est encore d'accompagner le ruisseau, de marcher le long des berges, dans le bon sens, dans le sens de l'eau qui coule, de l'eau qui mène la vie ailleurs, au village voisin. Mon ailleurs ne va pas plus loin. J'avais presque 30 ans quand j'ai vu l'océan pour la première fois. Aussi, dans ce livre, je parlerai mal de la mer. J'en parlerai indirectement en écoutant ce qu'en disent les livres des poètes. J'en parlerai en restant sous l'influence des poncifs scolaires relatifs à l'infini. En ce qui touche ma rêverie, ce n'est pas l'infini que je trouve dans les eaux, c'est la profondeur. D'ailleurs, Baudelaire ne dit-il pas que 6 à 7 lieues représentent pour l'homme rêvant devant la mer le rayon de l'infini? Le Valage a 18 lieues de long et 12 de large. C'est donc un monde, je ne le connais pas tout entier, je n'ai pas suivi toutes ces rivières. Mais le pays natal est moins une étendue qu'une matière. C'est un granit, ou une terre, un vent, ou une sécheresse, une eau, ou une lumière. C'est en lui que nous matérialisons nos rêveries. C'est par lui que notre rêve prend sa juste substance. C'est à lui que nous demandons notre couleur fondamentale. En rêvant près de la rivière, j'ai voué mon imagination à l'eau verte et claire, à l'eau qui verdit les prés. Je ne puis m'asseoir près d'un ruisseau sans tomber dans une rêverie profonde, sans revoir mon bonheur. Il n'est pas nécessaire que ce soit le ruisseau de chez nous, l'eau de chez nous. L'eau anonyme sait tous mes secrets. Le même souvenir sort de toutes les fontaines. Gaston Bachelard, L'eau et les rêves.
Avec l'eau et les rêves, publié en 1942, la méthode de Bachelard s'assouplit. Il ne s'agit plus d'une psychanalyse, mais, comme l'indique le sous-titre, d'un essai sur l'imagination de la matière. Bachelard explique dans l'introduction que s'il n'a pas donné à son livre le titre de psychanalyse de l'eau, qui aurait pu faire suite à la psychanalyse du feu, c'est par une obligation de sincérité. Par une psychanalyse de la connaissance objective et de la connaissance imagée, nous sommes devenus rationalistes à l'égard du feu, dit-il. La sincérité nous oblige à confesser que nous n'avons pas réussi le même redressement à l'égard de l'eau. Les images de l'eau, nous les vivons encore. Nous les vivons synthétiquement dans leur complexité première, en leur donnant souvent notre adhésion irraisonnée. Bachelard, dans L'eau et les rêves, élargit son domaine. Il se laisse plus guider par les images des poètes. Il s'abandonne à sa propre rêverie. L'ouvrage suit une progression très belle, commençant par les images qui matérialisent mal, les eaux claires, brillantes, qui donnent naissance à des images fugitives et faciles. Bachelard aborde ensuite les eaux dormantes, en utilisant particulièrement les passages de l'œuvre d'Edgar Poe, où revient le thème chez lui obsessionnel de l'eau lourde, de l'eau de mort. Passe les images de Caron, d'Ophélie. L'eau est alors matière du désespoir. Mais c'est dans la matière même du désespoir que Bachelard trouve concrètement la possibilité d'en sortir, de le transcender. Les derniers chapitres abordent les images maternelles de l'eau, puis l'illustration, le baptême, la purification, la rédemption. Le livre se termine par une véritable ode à la joie. Voici sur le thème de l'eau une causerie que Gaston Bachelard a enregistrée le 22 novembre 1952.
La poésie de l'eau. la poésie de l'eau. Il semble qu'on n'ait même pas besoin de la définir. Quel est l'homme poétique qui ne répondrait pas à l'appel des sources et des fontaines, qui ne garderait pas les souvenirs émus de l'étang et de la rivière? Cet accord unanime de toutes les âmes poétiques est déjà un gage de la réalité de notre problème, de l'adhésion que nous proposons à une poétique des éléments. Nous allons voir que l'attachement que nous avons à la beauté de l'eau est fort de mille liens. Nous allons voir s'accumuler les attraits les plus divers, les attraits les plus contraires, de sorte que notre amour pour l'eau est peut-être le plus ambivalent des amours.
Bien des poètes ont senti la richesse métaphorique d'une eau contemplée en même temps dans ses reflets et dans sa profondeur. On lit par exemple dans le prélude de Wordsworth, celui qui se penche par-dessus le bord d'une barque lente, sur le sein d'une eau tranquille, se plaisant aux découvertes que fait son œil au fond des eaux, voit mille choses belles, des herbes, des poissons, des fleurs, des grottes, des galets, des racines d'arbres, et en imagine plus encore. Il en imagine plus encore parce que tous ses reflets et tous ses objets de la profondeur le mettent sur la route des images, parce que de ce mariage, du ciel et de l'eau profonde, naissent des métaphores à la fois infinies et précises. Ainsi, Wordsworth continue, mais il est souvent perplexe et ne peut pas toujours séparer l'ombre de la substance, distinguer les rocs et le ciel, les monts et les nuages, reflétés dans les profondeurs du flot clair, des choses qui habitent là et y ont leur vraie demeure. Tantôt il est traversé par le reflet de sa propre image, tantôt par un rayon de soleil et par les ondulations venues il ne sait d'où, obstacle qui ajoute encore à la douceur de sa tâche. Comment mieux dire que l'eau croise les images? Comment mieux faire comprendre sa puissance de métaphore? Wordsworth a d'ailleurs développé cette longue imagerie pour préparer une métaphore psychologique qui nous semble la métaphore fondamentale de la profondeur. C'est ainsi, dit-il, c'est avec la même incertitude que je me suis plu longtemps à me pencher sur la surface du temps écoulé. Pourrait-on vraiment décrire un passé sans des images de la profondeur, et aurait-on jamais une image de la profondeur pleine si l'on n'a pas médité au bord d'une eau profonde? Le passé de notre âme est une eau profonde. Et puis quand on a vu tous les reflets, soudain on regarde l'eau elle-même. On croit alors la surprendre en train de fabriquer de la beauté. On s'aperçoit qu'elle est belle en son volume, d'une beauté interne, d'une beauté active. Une sorte de narcissisme volumétrique imprègne la matière même. On suit alors, avec toutes les forces du rêve, ce dialogue de Maeterlinck. L'eau bleue est pleine de fleurs immobiles et étranges. As-tu vu la plus grande qui s'épanouit sous les autres? On dirait qu'elle vit d'une vie cadencée. Et l'eau, est-ce de l'eau? Elle semble plus belle et plus pure et plus bleue que l'eau de la terre. Je n'ose plus la regarder. Une âme aussi est une matière si grande. On n'ose pas la regarder.
Ses reflets et dans sa profondeur, dans son repos et dans son tumulte, dans sa substance et dans sa force. Les dialectiques se multiplient au point qu'il faudrait une véritable encyclopédie de l'eau pour les analyser toutes. Le monde des reflets, que serait-il sans le miroir des eaux dormantes? Les hommes eussent-ils inventé des miroirs si la surface d'une eau tranquille ne leur avait pas rendu si fidèlement leur image? La psychanalyse a justement nommé, à partir d'une telle image, passionnément contemplée, le complexe de Narcisse. Mais la psychanalyse, en multipliant les explications psychologiques, a, en cette occasion, intellectualisé les symboles. Elle a détendu les liens qui unissent les symboles secondaires aux symboles primitifs. Bref, la psychanalyse nous a écartés de la méditation de l'image primitive. Elle a, il faut bien le dire, dépoétisé l'image poétique fondamentale. Elle a perdu les valeurs de contact avec un élément radical de la poétique naturelle. Si nous revenions vraiment au miroir des fontaines, si nous vivions la poésie dans la nature, peut-être la contemplation toute solitaire de nous-mêmes, dans la solitude des champs, perdrait-elle sa nocivité ? Voilà précisément la grande leçon de solitude que donne la poésie des éléments, que donne la poésie de l'eau réfléchissante. L'image naturelle véritable, celle qui étonne l'enfant, celle qui enchaîne le rêveur, associe en effet le reflet et la profondeur. Au sein de l'eau vraiment réfléchissante, nous découvrons une intimité, un être intime, un être profond. Edgar Poe a vécu, avec la plus extrême intensité, cette prise d'intimité où le miroir est vivant dans sa surface et dans sa profondeur. Mais l'eau profonde a bientôt une autre tonalité psychologique. Elle est sans doute la première image de la profondeur dangereuse, la grande et simple image de l'abîme. Sans doute, la terre a ses crevasses et ses falaises, mais de tels abîmes, il semble qu'on puisse les explorer, les mesurer. Les abîmes de la terre ont une géométrie. Les abîmes de l'eau sont plus directs et plus simples. Ils donnent tout de suite l'image de l'insondable. L'eau est alors un mystère et un vertige. Elle attire et elle effraie. Si l'imagination ne s'arrête pas, le rêveur va voir la mystérieuse ondine, la dangereuse ondine. N'est-il pas étrange que la poésie soit en quelque sorte dialectisée, jusque dans ses fantômes, par la naïade et par l'ondine, par Nausicaa et par Mélusine, par l'être qui a toutes les beautés de l'eau ensoleillée, et par l'être qui a toutes les dangereuses séductions des ténèbres vertes, comme disait Baudelaire, de l'inconnu des profondeurs.
Il y a des rêveurs en eau trouble. Ils s'émerveillent de l'eau noire du fossé, de l'eau travaillée par les bulles, de l'eau qui montre des veines dans sa substance, qui soulève comme d'elle-même un remous de vase. Alors il semble que ce soit l'eau qui rêve et qui se couvre d'une végétation de cauchemar. Cette végétation onirique est déjà induite par la rêverie dans la contemplation des plantes de l'eau. La flore aquatique est, pour certaines âmes, un véritable exotisme, une tentation de rêver un ailleurs, loin des fleurs du soleil, loin de la vie limpide. Nombreux sont les rêves impurs qui fleurissent dans l'eau, qui s'étalent lourdement sur l'eau comme la grosse main palmée du nénuphar. Nombreux sont les rêves impurs où l'homme endormi s'en circulait en lui-même, autour de lui-même, des courants noirs et bourbeux, des styx aux ondes lourdes, chargées de mal. Et notre cœur est remué par cette dynamique du noir, et notre œil endormi suit sans fin, noir sur noir, ce devenir de la noirceur.
les rêveries devant l'eau profonde ou devant le fleuve qui passe prennent souvent la teinte de la mélancolie. Et elles nous ramènent au souvenir des êtres disparus. Dans un livre sans doute trop simple, La mythologie du Rhin, le vieil écrivain français Saint-Ine rappelle un type de funérailles où l'on couchait le mort dans un tronc d'arbre, abandonné ensuite dans le courant du fleuve. Comment ne pas rapprocher cette lointaine coutume des légendes sur la barque des morts, légendes qui émeuvent encore toute la Bretagne? Comment ne pas penser à la barque de Caron? Mais ces mythologies et ces légendes, le poète ne leur donne-t-il pas une vie nouvelle, une vie naturelle, en marge de toute érudition? Ne revivons-nous pas tous les adieux de notre vie dans un seul grand vers comme celui de Baudelaire? Ô mort, vieux capitaine, il est temps, le vent l'ancre. De tels vers ont une résonance agrandie si on leur donne tout leur passé de légende et d'image, si l'on retrouve les songes de l'homme devant les flots de la mer, devant le fleuve qui jamais ne reviendra à sa source. Ces grandes images simples, ces images banales, elles prennent une vie nouvelle et singulière dès qu'un grand poète leur rend leur vertu élémentaire, leur puissance cosmique élémentaire. En y mettant les justes nuances, le psychologue, conscient du rôle de l'instinct poétique, découvrirait facilement le caractère particulier des complexes poétisants. Il pourrait, par exemple, dans les images littéraires, distinguer le complexe de Caron et le complexe d'Ophéline. Il comprendrait pourquoi Lamartine a pu appeler l'eau l'élément triste. Il comprendrait, en allant à l'extrême de cette tristesse, pourquoi, pour certains rêveurs, l'eau dormante est le cosmos de la mort.
En vain, on portera en terre les restes d'Ophélie. Elle est vraiment, comme dit Mallarmé, une Ophélie jamais noyée, joyau intact sous le désastre. Pendant des siècles, elle apparaîtra aux rêveurs et aux poètes, flottant sur son ruisseau, avec ses fleurs et sa chevelure étalée sur l'onde. Elle sera l'occasion d'une des synecdoques poétiques les plus claires. Elle sera une chevelure flottante, une chevelure dénouée par les flots. Pour bien comprendre le rôle du détail créateur dans la rêverie, ne retenons pour l'instant que cette vision d'une chevelure flottante. Nous verrons qu'elle anime à elle seule tout un symbole de la psychologie des eaux, qu'elle explique presque à elle seule tout le complexe d'Ophélie. Comme toujours, dans le règne de l'imagination, l'inversion de l'image prouve l'importance de l'image. Elle prouve son caractère complet et naturel. Or, il suffit qu'une chevelure dénouée tombe, coule sur des épaules nues pour que se réanime tout le symbole des eaux. Dans l'admirable poème d'Edgar Poe, traduit par Mallarmé, pour Annie, on lit « Il gît ainsi, heureusement baigné, par mince songe de la constance et de la beauté d'Annie, noyé dans un bain détresse d'Annie. »
Pour ces rêveurs, l'eau est nocturne. Elle garde en son sein de la nuit et de la mort. Ainsi, pour Paracelse, la lune imprègne la substance de l'eau d'une influence délétère. L'eau, longtemps exposée aux rayons lunaires, reste une eau empoisonnée. Ces images matérielles, si fortes dans la pensée paracelsienne, sont encore vivantes dans les rêveries poétiques d'aujourd'hui. Le poète Victor-Émile Michelet n'écrit-il pas « La lune donne à ceux qu'elle influence le goût de l'eau du Styx ». Oui, on ne se guérit jamais d'avoir erré près d'une eau dormante. Mais l'eau enchaîne aussi bien les images de la vie que les images de la mort. C'est précisément en raison d'un tel double enchaînement que l'eau est un élément éminent de la poésie universelle. L'eau, comme tous les éléments, donne prise à de multiples ambivalences, ou pour mieux dire, elle concrétise l'ambivalence qui vit au cœur de l'homme. Elle est, dans les beaux jours de la vie humaine, la substance de vie. Elle est le lait de la terre. D'innombrables variations animent ce thème général de la maternité des eaux. Des références à l'alchimie pourraient ici être données sans fin. On écrirait aisément tout un livre, par exemple, en exposant les principes des eaux de jouvence. Mais là encore, comme dans le cas du complexe de Narcisse, il faudrait ne point se complaire dans l'image métaphorique. Il faudrait donner moins d'attention au mélodrame trop voyant du vieillard rajeuni. On restituerait alors à l'eau élémentaire, à l'image matérielle et cosmique de l'eau élémentaire, une force de conviction qui traverse tout le psychisme, allons du fond même de l'inconscient jusqu'aux satisfactions sensibles les plus claires.
Des quatre éléments, il n'y a que l'eau qui puisse bercer. C'est elle, l'élément berçant. C'est un trait de plus de son caractère féminin. Elle berce comme une mère. L'inconscient ne formule pas son principe d'Archimède, mais il le vit. Dans ses songes, le baigneur qui ne cherche rien, qui ne se réveille pas en criant Eureka comme un psychanalyste étonné des moindres trouvailles, le baigneur, qui retrouve la nuit son milieu, aime et connaît la légèreté conquise dans les eaux. Il en jouit directement comme d'une connaissance songeuse, une connaissance qui ouvre un infini. La barque oisive donne les mêmes délices, suscite les mêmes rêveries. Elle donne, dit Lamartine sans hésitation, une des plus mystérieuses voluptés de la nature. D'innombrables références littéraires nous prouveraient facilement que la barque enchanteresse, que la barque romantique est à certains égards un berceau reconquis. Longues heures insouciantes et tranquilles, longues heures où couchés au fond de la barque solitaire nous contemplons le ciel, à quel souvenir nous rendez-vous ? Toutes les images sont absentes, le ciel est vide, mais le mouvement est là, vivant, sans heurts, rythmé. C'est le mouvement presque immobile, bien silencieux. L'eau nous porte, l'eau nous berce, l'eau nous endort, l'eau nous rend notre mère.
Et c'est ainsi que, justement, Paul Claudel bouscule toutes les métaphores superficielles en s'écriant dans les grandes odes « Vos sources ne sont point des sources, l'élément même, la matière première, c'est la mer, je dis, qu'il me faut. » Ainsi, dans le style de la psychanalyse, l'eau de jouvence est le symbole du retour au sein maternel. Elle est une marque, entre beaucoup d'autres, de la primitivité des images maternelles de l'eau. On retrouverait la même hiérarchie d'images si l'on étudiait les mythes de purification, si divers dans leur nuance, si semblables dans leur fond. Pour toutes ces raisons, nous nous croyons fondés à dire que l'eau est un véritable élément psychique, un élément qui amasse les images dans nos rêves comme dans nos pensées, un élément qui règne dans notre conscience, comme dans notre inconscient, un élément que nous aimons en nous et hors de nous, une boisson et un filtre, une réalité et une puissance. En suivant les images de l'eau, le poète était assuré de trouver un élément de la poésie universelle.
Nous développerons le plus extrême de nos paradoxes. Il consistera à prouver que les voix de l'eau sont à peine métaphoriques, que le langage des eaux est une réalité poétique directe, que les ruisseaux et les fleuves sonorisent avec une étrange fidélité les paysages muets, que les eaux bruissantes apprennent aux oiseaux et aux hommes à chanter, à parler, à redire, et qu'il y a en somme continuité entre la parole de l'eau et la parole humaine. Inversement, nous insisterons sur le fait trop peu remarqué qu'organiquement le langage humain a une liquidité, un débit dans l'ensemble, une eau dans les consonnes. Nous montrerons que cette liquidité donne une excitation psychique spéciale, une excitation qui déjà appelle les images de l'eau. Venez, ô mes amis, dans le clair matin, chanter les voyelles du ruisseau. Où est notre première souffrance ? C'est que nous avons hésité à dire. Elle est née dans les heures où nous avons entassé en nous des choses tues. Le ruisseau vous apprendra à parler quand même, malgré les peines et les souvenirs. Il vous apprendra l'euphorie par le fuisme, l'énergie par le poème. Il vous redira, à chaque instant, quelques beaux mots, tout ronds, qui roulent sur des pierres. Gaston Bachelard, L'eau et les rêves.
C'était la poésie et les éléments, l'eau. Gaston Bachelard, Causerie 1952. Document INA recueilli par Suzanne Legrand. Une émission composée par Michel Cohen, Jeannine Antoine. Texte lu par Claude Royer-Journeau. Collaboration technique, Michel Créis. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard.
Histoire et formation de l'esprit scientifique. Deuxième partie. Archives 1947-1962. Cette semaine, philosophie de l'atome. Aujourd'hui, la mécanique ondulatoire, Louis de Broglie, 1955, suivi de l'atomisme naïf, réalisme externe et interne, 1948.
Dans deux causeries précédentes, j'ai essayé de montrer que la mécanique relativiste et la mécanique des quantas, toutes deux nées dans les premières années du XXe siècle, ont entraîné une réforme totale des bases du savoir scientifique. Les notions de temps, d'espace, de causalité, de mouvement, tout en restant valables pour l'expérience commune, doit être médité à nouveau par le philosophe s'il veut suivre la science dans les étonnantes découvertes de notre temps. Aujourd'hui, je voudrais montrer que la mécanique ondulatoire accentue, s'il est possible, le caractère révolutionnaire de la pensée scientifique moderne. La mécanique ondulatoire procède d'une méditation philosophique profonde de l'histoire des sciences, et cependant, on peut dire qu'elle n'a pas d'antécédent historique. Elle est née vraiment du génie d'un seul homme. Le prince Louis de Broglie en a formulé les principes en 1924 dans sa thèse de doctorat. Dès 1927, l'expérience a sanctionné
les prévisions théoriques de la doctrine. En 1929, Louis de Broglie, à 37 ans, a obtenu le prix Nobel pour sa grande découverte. Donnons une esquisse de la méditation philosophique qui a conduit à l'idée créatrice de la mécanique ondulatoire. Depuis Huygens, au XVIIe siècle, une sorte de dialectique historique animait la science de la lumière. Tantôt, on s'appuyait avec Huygens sur une hypothèse de la transmission de la lumière par onde. Tantôt, avec Newton, un petit demi-siècle plus tard, sur l'hypothèse d'un flux de corpuscules lumineux lancés par les corps lumineux. Au XVIIIe siècle, l'un ou l'autre des termes de la dialectique, onde ou corpuscule, avait la prérogative. Mais avec le physicien français Fresnel, en 1827, le succès des intuitions ondulatoires fut complet. Les phénomènes des interférences et de la diffraction de la lumière s'expliquaient dans tous leurs détails dès qu'on supposait que la lumière était produite par les vibrations d'un éther occupant tout l'espace. Einstein établit la nécessité de reconnaître à la lumière des propriétés corpusculaires. Cette fois, la dialectique historique s'arrêtait. Deux ordres de phénomènes aussi précis et réels que la diffraction de la lumière et le phénomène photoélectrique obligeaient à affirmer le caractère ondulatoire et le caractère corpusculaire. Ainsi, l'optique était en quelque manière une science double. C'est ici que se place la question centrale d'où naît la mécanique ondulatoire. Si l'optique est double, pourquoi, se demande Louis de Broglie, la mécanique ne le serait-elle pas, elle aussi? En somme, toute la mécanique que nous connaissons est corpusculaire. Nous l'apprenons en considérant le mouvement des corps ou des corpuscules dans l'espace. Pourquoi n'y aurait-il pas une mécanique ondulatoire comme il y a une optique ondulatoire? Quelle désharmonie y aurait-il de supposer une optique qui se dédouble et une mécanique qui ne se dédouble pas? Il doit y avoir des phénomènes ondulatoires dans le règne même de la mécanique du mouvement des corps matériels. Telle est la méditation philosophique de l'histoire qui pose le problème décisif. Un philosophe se serait sans doute conclu dans cette contemplation de ces dualités harmonieuses. Il fallut une force de pénétration peu commune pour découvrir les voies nouvelles qui permettaient de préciser ce que doivent être les phénomènes ondulatoires de l'objet matériel, de l'objet mécanique. Louis de Broglie prévoit que les phénomènes ondulatoires d'un corps en mouvement doivent faire intervenir la constante de Planck qui conditionne l'existence du corpuscule de lumière par la formule E égale H nu, E étant l'énergie et nu la fréquence. S'il y a des phénomènes ondulatoires pour la matière, il faut qu'ils soient associés à des corps très petits. De déduction en déduction, toujours d'accord avec une organisation mathématique des notions, Louis de Broglie arrive à la formule fondamentale lambda égale H divisé par mv. Lambda est la longueur d'onde du phénomène ondulatoire de la matière, m est la masse du corpuscule, v sa vitesse. Ces deux dernières notions étant des notions essentiellement corpusculaires. H, je le répète, est la constante de Planck qui est comme la clé du domaine microphysique. Pour établir cette formule centrale si simple, Louis de Broglie a su condenser la loi de Fermat qui fixe la durée minima de parcours d'un rayon lumineux et la loi de Maupertuis qui fixe la trajectoire d'un point matériel, trajectoire d'action minima. On voit ainsi que, dans sa formule centrale, la mécanique ondulatoire réalise une synthèse de l'optique et de la mécanique. Pour les corps, à notre échelle, les masses seraient trop fortes pour qu'on obtienne des phénomènes ondulatoires. Il faut chercher ces phénomènes avec des corpuscules de masse très légère, en particulier avec l'électron, le corpuscule d'électricité. Voilà la théorie, voici maintenant l'expérience. Les physiciens américains Davison et Germer publièrent les résultats d'expérience sur la diffusion d'un flot d'électrons sur un cristal de nickel. On se rendit compte que ces résultats, qui parurent d'abord singuliers, s'interprétaient aisément comme un phénomène de diffraction, entièrement assimilable au phénomène de diffraction de la lumière. La diffusion, phénomène mécanique, était ici une diffraction, phénomène optique. Avec l'expérience de Davison et de Germer, on rencontrait pour la première fois un phénomène ondulatoire attaché au mouvement d'un corpuscule. La technique s'empara bientôt de ces expériences, puisqu'un pinceau, un flux d'électrons, se comportait comme un rayon lumineux et que la longueur d'onde de cette lumière électronique est très petite. On pensa qu'on pouvait former des appareils similaires au microscope. On construisit le microscope électronique. Je me suis borné à évoquer l'histoire d'une idée générale. Sa vérification précise est une de ses utilisations techniques. De nombreux savants, en particulier Schrödinger, saisirent rapidement la portée considérable de la découverte de Louis de Broglie. Il faut une grande culture mathématique pour suivre l'évolution de la mécanique ondulatoire. Le philosophe qui s'engage dans ses études ne peut manquer de s'émerveiller à la fois de la puissance des mathématiques dans ce domaine et de la somme d'idées et d'expériences nouvelles suggérées par une doctrine aussi extraordinaire.
L'épistémologie est une discipline relativement jeune. Elle s'emploie à décrire la manière dont les disciplines scientifiques élaborent leurs théories et les mettent à l'épreuve des faits. Elle estime leur valeur logique et cognitive et le degré de fiabilité des procédés de validation qu'elles mettent en œuvre. Elle s'interroge sur la nature des connaissances ainsi acquises et cherche à déterminer en quel sens elles peuvent être dites vraies. Au total, ces acquis sont importants, et on remarquera qu'ils sont d'une grande généralité. A priori, un épistémologue peut donc estimer que ce travail d'encadrement de la recherche est susceptible d'être effectué indépendamment des résultats factuels de celle-ci. Sans doute, est-ce encore là la manière dont certains épistémologues considèrent l'actuelle physique. Ma thèse toutefois est que ceux qui en jugent ainsi se trompent. Quiconque s'exprime, même en des matières aussi générales que celles de l'épistémologie, fait tacitement appel à une représentation du monde, ne serait-ce que pour y puiser les concepts que ces phrases mettront bout à bout. Or, la science, principalement par le canal d'une de ses branches, la physique, a apporté tout au long du XXe siècle de tels changements dans le spectre des représentations possibles du monde, a éliminé d'une manière si sévère celles qui se fondaient sur certaines notions apparemment premières et allant de soi, que raisonner en matière épistémologique en ignorant ces développements est devenu incohérent. La vérité est que nous sommes en un âge dans lequel, sous l'impulsion des découvertes en question, la mentalité conceptuelle des sociétés, l'image qu'elles se font du monde, est entrée en évolution, pour ne pas dire révolution. Mais des évolutions de cette ampleur prennent du temps, un siècle ou deux en général, et il est bien normal qu'elles suscitent des réticences. Dans l'autre sens, il est hélas normal qu'elles engendrent aussi des dérives. On restera donc sur ses gardes. Ces propos ne sont pas signés de Gaston Bachelard. Ils sont de Bernard d'Espagna, en avant-propos de son traité de physique et de philosophie, paru en 2002, 40 ans après la mort de notre philosophe, de l'auteur du Nouvel Esprit Scientifique et de la philosophie du non. On peut juger de la pertinence de l'analyse bachelardienne à cet aune qui déborde le simple fait générationnel. C'est en termes d'obstacle qu'il faut poser plutôt le problème de la connaissance scientifique. Que sont donc les nouvelles catégories de pensée que Bachelard attribuait à la nécessité d'un surrationalisme, autorisant seul de penser le réel dont Bernard d'Espagna examine le voile des origines, un réel voilé, et que Bachelard, au milieu du siècle dernier, voyait caché.
Nous avons vu que la notion d'atome ne pouvait être étudiée philosophiquement d'un point de vue unique. Nous allons aujourd'hui faire un choix et nous placer au point de vue de la philosophie réaliste. Mais nous verrons par la suite que ce choix doit être révisé et que le réalisme est ici, comme souvent, une philosophie trop pressée, une philosophie qui attribue trop de réalité à des expériences premières mal discutées. Et ce ne sera qu'au terme de cette série de conférences que nous aurons suivi la lente évolution scientifique de la notion d'atome que nous pourrons vraiment juger du caractère réaliste de cette notion. En somme, seule la pensée et le travail scientifique peuvent nous débarrasser du réalisme naïf et nous permettre de fonder un réalisme véritable. Voyons donc comment se présentent les caractères fondamentaux de l'atomisme naïf. Dans ses premières formes, l'atomisme est lié à la connaissance par les sensations. Sans doute, les atomes échappent à notre vue, à notre toucher, à notre sens du poids, mais ils devront quand même recevoir leur caractère distinctif des corps que nous voyons, des corps que nous touchons, des corps que nous pesons. Les atomes d'une substance sucrée devront être des atomes doux. On leur attribuera la forme ronde. Ainsi, la douceur sous le palais et la douceur entre les doigts seront deux arguments sensibles pour affirmer que les atomes du miel sont ronds. Au contraire, l'acide a une saveur piquante. On dira qu'il pique la langue. Donc, son atome a des pointes. Un corps astringent dessèche la bouche. Il absorbe la salive. Donc, il a des pores. Il faut se le représenter comme une minuscule éponge. Pour Gassendi, ce philosophe français qui, au XVIIe siècle, remet en lumière l'atomisme d'Épicure et de Démocrite, le froid est une substance. Il y a un atome de froid. Et puisque le froid pique les doigts, son atome a la forme d'un tétraèdre, d'une petite pyramide à quatre points. Les atomes apparaissent donc bien comme les images d'un véritable sensualisme. Non seulement l'atomisme naïf est une doctrine de la connaissance qui professe que toutes les connaissances viennent des sens, mais il veut que toutes les connaissances s'expriment dans le langage des sens. Cette préférence pour de telles images sensibles et pour de telles expressions sera encore plus évidente quand on voudra expliquer non seulement les sensations que nous recevons de la matière et qui concernent notre contact avec le réel, mais encore expliquer les relations objectives que les substances ont entre elles
en nous débarrassant, semble-t-il, du point de vue subjectif. Donnons un exemple. Donnons un exemple de cette chimie qui sera une chimie dessinée. Voici comment, en 1706, le chimiste Homberg explique l'expérience qui sera désignée 80 ans plus tard, quand la chimie se constituera comme une science, par Lavoisier, comme l'oxydation du mercure. Je cite donc le livre de Homberg. Les parties du mercure étant devenues hérissées par le lardement de la matière de la lumière, nous pouvons nous les représenter comme des châtaignes couvertes de leur coque verte et hérissée, qui se soutiennent plutôt les unes les autres que de rouler sur un plan incliné, comme elles feraient si elles étaient des boules rondes et polies. Et, dans cet état, le mercure n'est plus fluide, étant changé en une poudre rouge. C'est cette poudre rouge que l'on appelle maintenant le cinnabre. Poudre rouge dont les petits grains, collés les uns contre les autres, par leur propre hérisson, composent de gros morceaux assez durs et de figures irrégulières, comme feraient les coques hérissées des châtaignes si on les pressait les unes contre les autres. Comme ces points, continue le texte, qui rendent chaque grain du mercure hérissé sont une matière pesante, le mercure, dans cet état, augmente de volume et pèse plus qu'il ne faisait lorsqu'il était encore coulant. On voit bien dans ce texte que l'auteur est emporté par ces images et qu'il a perdu tout contact avec l'expérience scientifique. Voilà ce que donne un réalisme trop pressé, un réalisme trop attaché aux données sensibles. En fait, la science moderne parviendra à révéler des structures intimes, mais la science moderne le fera avec des moyens adéquats, avec des expériences de haute technicité, comme l'examen des substances chimiques par les rayons X, par le microscope électronique qui est encore plus révélateur. La science moderne prouvera donc que les substances chimiques sont des organisations géométriques d'atomes et nous montrerons précisément l'importance de cette géométrie intime avant de fonder le réalisme technique que la chimie moderne peut développer.
Gaston Bachelard, 1948.
Nous avons entrepris de distinguer, à propos de la notion d'atome, deux instances philosophiques différentes qu'on a souvent le tort de confondre sous le nom de réalisme. En séparant le réalisme naïf des débuts de l'atomisme et le réalisme technique que nous apprendrons à mieux connaître par la suite, nous n'avons cependant examiné qu'un côté des choses. Nous n'avons pas en effet considéré un atomisme figuré, nous n'avons considéré qu'un atomisme en quelque manière externe. Si nous voulons suivre avec fruit l'évolution des connaissances sur la matière, il faut que nous examinions de plus près les doctrines qui ont prétendu connaître intimement les substances matérielles. Nous allons donc maintenant essayer de caractériser un réalisme interne de l'atome. Au lieu de distinguer les atomes par leur figure, on va donc les spécifier par leur substance profonde. Et c'est ainsi que s'est formée la doctrine des quatre éléments. On prétendit expliquer par cette doctrine tous les phénomènes de la matière en les référant au feu, à la terre, à l'eau et à l'air. Bien entendu, l'atomisme est bientôt associé à cette doctrine des quatre éléments. Au lieu de constituer chaque espèce de corps à partir d'atomes spéciaux, un atomisme des quatre éléments matériels se contentera de supposer quatre espèces d'atomes, les atomes du feu, ceux de l'eau, ceux de la terre et ceux de l'air. Et c'est du mélange de ces quatre substances particulières que seront faites toutes les matières de la nature. Cependant, cet atomisme des quatre éléments reste plus vague, plus arbitraire que l'atomisme classique. Il n'est plus aussi fortement lié aux sensations que l'atomisme figuré. Les éléments sont en quelque manière des qualités premières. Le feu est chaud et sec. La terre est sèche et froide. L'eau est froide et humide. L'air est humide et chaud. Par cette double qualification, on voit apparaître une sorte de circulation des qualités qui peut tout expliquer. Mais voici un caractère très important qu'il nous faut méditer. Les doctrines si diverses des quatre éléments matériels sont des cosmologies. Elles tendent non seulement à décrire les phénomènes de la matière, mais encore les grands aspects de l'univers entier. Des cosmologies très différentes se désignent en particulier comme cosmologie du feu et cosmologie de l'eau. Elles doivent être comparées à certaines cosmologies plus proprement atomiques qui expliquent la formation du monde par la réunion d'immenses amas d'atomes. Mais c'est naturellement du côté de l'infiniment petit de la substance et non du côté de l'immense grandeur du cosmos que nous devons diriger notre enquête. Il nous faut donc examiner comment la doctrine des quatre éléments a influencé la chimie. La chimie est plus proprement la science de l'élément terre. Elle a d'abord cherché à déceler l'activité des trois autres éléments sur la terre. Un des plus importants des types d'activité fut la doctrine des trois principes de Paracelse. En plus des quatre éléments, Paracelse considère trois principes qui sont le mercure, le soufre et le sel. Mais ces noms, si chargés pour nous de réalité tangible, ne doivent pas nous tromper. Paracelse, comme avant lui tous les alchimistes, a soin de répéter que son mercure théorique n'est pas le vif argent commun, que son soufre n'est pas le corps jaune et friable que nous connaissons, que son sel n'est pas le sel de cuisine. Ce sont, dit-il, des principes plutôt que des substances. Le mercure paracelsien est le principe de toute liquidité, tous les liquides, même l'eau elle-même contiennent du mercure principe. De même, le soufre paracelsien est le principe de toute combustion. Si le bois s'enflamme, c'est qu'il est travaillé par un soufre intime. Enfin, le sel n'est pas le simple résultat d'une cristallisation. Il est au contraire le principe de toute cristallisation. L'atome de sel appelle toutes les substances à la concentration. Il rend terrestres les substances que le mercure principe avait transformées en eau, les substances que le soufre principe avait dispersées. Des visions aussi métaphysiques peuvent sembler bien éloignées des idées modernes. Elles ont eu cependant une énorme influence sur l'évolution de la science. Et, chose remarquable, elles préfigurent une systématisation de la notion d'opération chimique, de la notion de fonction chimique. Actuellement, la chimie ne se borne pas seulement à déterminer la composition élémentaire des substances. Elle étudie et elle classe les fonctions chimiques. Les trois principes de Paracelse étaient, dans un style ancien, des fonctions chimiques. Sans doute, elles étaient trop peu nombreuses. Elles étaient mal choisies. Mais la totale insuffisance des intuitions fonctionnelles de la chimie de Paracelse n'empêche pas que son idée vague de fonction ait eu une prodigieuse fécondité. Nous devrons nous en souvenir quand nous verrons les organisations d'atomes acquérir dans une molécule décrite par la science moderne des fonctions qui n'appartiennent pas aux atomes isolés. La philosophie réaliste de la chimie devra donc être très assouplie si elle veut associer à l'idée de composition atomique l'idée de fonction chimique. C'est cet assouplissement philosophique que nous décrirons dans les leçons prochaines.
C'était Gaston Bachelard, 1884-1962, Histoire et formation de l'esprit scientifique. Rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983. Suivi de Gaston Bachelard bis Archive, cette semaine, la philosophie de l'atome. Aujourd'hui, la mécanique ondulatoire, Louis de Broglie, 1955. Suivi de l'atomisme naïf, réalisme externe et interne, 1948. Bibliographie disponible sur franceculture.com. Isabelle Mézil, Adrien Joannet, Hervé Evano, Marc-Hubert Floriot.